J'étais alors docteur junior fraîchement diplômé, et 3 semaines plus tôt, j'avais commis une erreur de débutant. J'avais oublié de remplir le formulaire pour poser des congés. Maintenant, je me retrouvais à gérer un service hospitalier par moi-même, le jour de Noël. Cela commença mal et empira rapidement. Dès mon arrivée à l'hôpital, je fus submergé par une avalanche de dossiers médicaux contenant les antécédents des patients, les diagnostics posés et d'obscures demandes d'examen qu'un archéologue chevronné aurait mieux su décrypter que le radiologue de garde. Quelques minutes plus tard, j'étais confronté à la première urgence du jour, un homme dans la cinquantaine victime d'un grave arrêt cardiaque. Puis une des infirmières m'informa qu'il fallait effectuer d'urgence une évacuation manuelle sur un patient, si vous voyez ce que je veux dire. À 10h30, j'observais ce qui se passait dans le service. L'infirmière Janice descendait et remontait frénétiquement le couloir A, les bras débordant de perfusion et de tableaux de suivi des traitements médicamenteux. Dans le couloir B, un patient âgé réclamait bruyamment et obstinément son dentier égaré. Le corridor C était occupé par un ivrogne échappé des urgences qui errait en criant « Olive, Olive !» Je n'ai jamais su qui était Olive. Et à chaque instant, quelqu'un me demandait quelque chose. « Docteur Ali, pouvez-vous voir où en est la fièvre de Madame Johnson ?»« Docteur Ali, pouvez-vous faire quelque chose pour l'excès de potassium de Monsieur Singh ?» Je me mis bientôt à paniquer. La faculté de médecine ne m'avait préparé à rien de tel. Jusqu'alors, j'avais toujours été un étudiant assez efficace. Dès que cela devenait difficile, je recourais à une stratégie simple. Travailler encore plus durement. Cette méthode m'avait permis d'accéder aux études de médecine 7 ans plus tôt. Grâce à elle, j'avais obtenu quelques publications dans des revues académiques. J'avais même lancé un business pendant mes études. La discipline était le seul système productif que je connaissais. Et cela marchait. Mais là, ce n'était plus le cas. Depuis que j'avais commencé à exercer quelques mois plus tôt, j'avais l'impression de me noyer. Même en travaillant tard le soir, je n'arrivais pas à voir autant de patients qu'il aurait fallu, ni à m'acquitter de toute la paperasse. Mon humeur en était également affectée. J'avais aimé me former à la médecine, mais je trouvais la réalité du métier complètement déprimante et redoutais sans cesse de commettre une erreur fatale. Je ne dormais plus, mes liens d'amitié se distendaient et ma famille n'entendait plus parler de moi. Et tout ce que je pouvais faire, c'était travailler encore plus. Et puis, cette journée. Noël. Seul dans un service hospitalier, incapable de faire face. Les choses se précipitèrent quand je fis tomber un plateau rempli de dispositifs médicaux, en voyant les seringues valser sur le sol en linoléum. Contemplant misérablement ma blouse mouillée, je compris que je devais trouver une solution, sinon mon rêve de devenir chirurgien m'échapperait. Ce soir-là, j'ai raccroché mon stéthoscope et ouvert mon ordinateur. J'étais si productif par le passé, ai-je pensé. Qu'avais-je oublié? Pendant ma première année en médecine, percer les secrets de la productivité était devenu pour moi une obsession. Je restais éveillé nuit après nuit, à prendre des notes sur des centaines d'articles de magazines, de blogs et de vidéos promettant de livrer la clé de la performance optimale. Tous les gourous mettaient l'accent sur l'importance d'un travail acharné. Une citation de Mohamed Ali revenait souvent. « J'ai détesté chaque minute d'entraînement, mais je me disais « N'abandonne pas, souffre maintenant pour vivre en champion le reste de ta vie. » En relisant ces vieilles notes, je me suis demandé si je n'avais pas perdu de vue cet impératif. Peut-être fallait-il tout bonnement que je renoue avec mon ancienne éthique de travail. J'ai repris mon activité le lendemain en étant résolu à en faire plus. Mais cela n'a rien changé. Bien que je sois resté dans le service jusqu'à minuit et que je me sois récité la phrase de Mohamed Ali pendant mes pauses aux toilettes, je n'éclusais pas plus rapidement la paperasse. Mes patients n'avaient toujours droit qu'à une version fatiguée et inefficace d'Ali. Et j'étais toujours d'une humeur exécrable. À la fin de cette journée particulièrement laborieuse, je me sentais complètement sous l'eau. Et puis, comme surgi de nulle part, les sages paroles de mon ancien tuteur, le docteur Barclay, me sont revenues en mémoire. « Si le traitement ne marche pas, révisez le diagnostic. » J'ai commencé à remettre en question tous les conseils sur la productivité que j'avais assimilés, d'abord progressivement, puis d'un seul bloc. La réussite nécessitait-elle vraiment de souffrir? Et d'ailleurs, qu'est-ce que cela voulait dire « réussir » ? Pouvait-on même tolérer durablement la souffrance ? Comment pouvait-on penser que se sentir débordé aide à accomplir quoi que ce soit ? Fallait-il vraiment que je troque la santé et le bonheur contre, eh bien, quoi que ce soit ? Cela m'a pris quelques mois. Mais à force de remise en cause, j'en suis arrivé à cette révélation. Tout ce qu'on m'avait dit sur la réussite était faux. Ce n'était pas en faisant du zèle que je deviendrais un bon médecin. Travailler toujours plus ne m'apporterait pas le bonheur. Et il existait une autre voie vers l'accomplissement qui n'était pas pavée d'angoisse permanente, de nuits d'insomnie et ne passait pas par une dépendance préoccupante à la caféine. Je n'avais pas encore toutes les réponses, loin de là. Néanmoins, pour la première fois, je voyais se dessiner une approche alternative. Une approche qui ne se fondait pas sur un travail obstiné et épuisant, mais sur la compréhension de ce qui pouvait rendre un travail acharné plus agréable. Une approche centrée d'abord sur mon bien-être, à partir duquel je pourrais ensuite améliorer ma concentration et nourrir ma motivation. Un système que j'en suis venu à baptiser « Feel Good Productivity ». Les secrets surprenants de la Feel Good Productivity. À la faculté de médecine, mon obsession de la productivité m'avait conduit à suivre une année supplémentaire pour obtenir un diplôme en psychologie. Alors que je commençais à assembler les pièces du puzzle de la Feel Good Productivity, je me suis remémoré une étude sur laquelle j'avais été évalué. Elle nécessitait une bougie, une boîte d'allumettes et une autre de punaise. Visualisez-vous avec ces trois objets devant vous. Votre tâche consiste à fixer la bougie à un tableau de liège accroché au mur, de telle sorte qu'une fois la bougie allumée, la cire ne coule pas sur la table au-dessous. Vous regardez les objets perplexes, les tournant et les retournant dans vos mains. Pouvez-vous envisager une solution ? Lorsqu'on leur expose le problème, la plupart des gens ne prennent en considération que la bougie, les allumettes et les punaises. En revanche, les esprits les plus inventifs repèrent les possibilités que recèle la boîte de punaises. La meilleure manière de résoudre l'énigme consiste à voir cette boîte non seulement comme un contenant, mais aussi comme un porte-bougie. Le problème de la bougie est un test classique de pensée créative. Conçu à l'origine par Carl Duncker en 1945, il a depuis été utilisé dans d'innombrables études pour tester toutes sortes de choses, depuis la flexibilité cognitive jusqu'aux effets psychologiques du stress. À la fin des années 1970, la psychologue Alice Eisen en a fait le fondement d'une importante expérience visant à étudier comment l'humeur affecte la créativité. Eisen a d'abord divisé les sujets volontaires en deux groupes. Avant de soumettre le problème de la bougie au premier groupe, on a distribué à ses membres des petits cadeaux, des sachets de bonbons. Le second groupe s'est mis à la tâche sans recevoir aucun présent incitatif. La théorie postulait que ceux qui recevraient des bonbons seraient d'humeur plus positive au moment de s'attaquer au problème. Et Eisen a constaté quelque chose d'intéressant. Ceux dont l'humeur avait été subtilement améliorée par le cadeau réussissaient significativement mieux à résoudre le problème de la bougie. Quand j'ai pris connaissance de cette expérience durant mes études de psychologie, cela m'a intéressé sans que ce soit à proprement parler une révélation. Personnellement, je n'avais jamais ressenti le besoin pressant de fixer une bougie à un mur. Pourtant, revenant à cette étude dans les habits d'un jeune médecin, j'ai réalisé la profondeur de la découverte d'Eisen. Elle laissait penser que se sentir bien n'est pas une fin en soi. Le bien-être change de fait notre façon de penser et notre comportement. J'ai aussi appris à ce moment-là que l'étude avait suscité une vague de recherches sur la manière dont les émotions positives influencent nombre de nos processus cognitifs. Ces recherches ont établi que, lorsque nous sommes dans une humeur positive, nous avons tendance à envisager une gamme plus large d'actions, à être plus ouverts aux nouvelles expériences et à mieux intégrer les informations reçues. En d'autres termes, se sentir bien stimule la créativité et la productivité.